De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vous à nous @radio-aviva.com.
Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Martine.
Nous nous retrouvons Jean-Charles pour aujourd'hui, nous allons parler de l'absentéisme scolaire. Je pense que beaucoup d'auditeurs se sentiront concernés par ce thème parce que hélas, pas mal d'enfants connaissent ce phénomène de l'absentéisme. Mmh. Et vous, en tant que psychologue, vous devez le voir assez souvent dans vos cabinets. Mmh. Alors je rappelle à nos auditeurs que nous parlons de cas concrets, de cas cliniques que vous nous avez soumis. Et aujourd'hui, donc, nous parlons d'un premier cas qui est issu d'un ouvrage de Françoise Dolto que beaucoup d'entre vous connaissent, mmh. « Lorsque l'enfant paraît ».
Voilà, c'est un recueil de chroniques, en fait, de la radio. Parce que Françoise Dolto a fait une émission dans les années, je crois que c'est les années 80, de radio, avec des questions adressées par les parents. Donc c'est assez intéressant et ils ont tiré des livres... où il y a sur une page ou deux, on peut avoir des réponses à des situations concrètes.
Voilà, alors aujourd'hui, c'est l'histoire de Paul. Mmh. Paul est un enfant de 8 ans. Il est l'aîné de 3 enfants, mmh. dont une petite sœur arrivée il y a quelques mois, en début d'année.
Voilà, on se place, là on est en milieu d'année scolaire. Et donc...
Alors la maman de Paul est femme au foyer et le père est chauffeur routier, mmh. ce qui signifie qu'il n'est pas souvent à la maison quand même.
Hein. Voilà,
c'est le cas. Alors, Paul a toujours été un très bon élève et le début de l'année scolaire s'est bien déroulé. Mmh. Et petit à petit, donc, on s'aperçoit que les résultats chutent. Il est puni plusieurs fois. Son père le punit aussi pour essayer d'enrayer le mouvement.
Voilà, en fait, il est puni à l'école et ensuite père...
double cette punition.
Le punit encore, donc c'est un peu compliqué.
Alors, à force d'être puni un peu partout, mmh. à la maison, à l'école, eh bien, Paul commence à faire l'école buissonnière. Et c'est à partir de là que tout s'enclenche.
Voilà. En fait, comme il s'agit de l'école primaire, donc quand les enfants vont pas à l'école, surtout à l'école primaire, il y a quand même... l'école s'inquiète. Parce qu'au collège, il y a certains enfants qui font aussi l'école buissonnière, mais... Là, à l'école primaire, c'est plus considéré comme plus grave, on va dire. Et donc, voilà, à l'époque, Françoise Dolto travaillait dans des lieux de consultation qui sont des centres médico-psychopédagogiques ou des centres médico-psychiatriques pour enfants ou adolescents. Ce sont des CMPP ou des CMPEA.
Est-ce que ça existe toujours ? Oui.
Oui, je travaille dans un CMPEA. Donc je reçois des enfants qui présentent parfois cette question de... Enfin là, ils quittent pas l'école, mais ils ont des résultats scolaires. C'est assez fréquent que des enfants nous soient adressés par l'école, par le psychologue scolaire ou par le médecin, parce que les résultats chutent. Enfin, il y a des symptômes assez souvent le même, on va dire, les résultats qui chutent, mais qui ont des causes... différentes.
Bien, alors on revient à Paul. Mmh. Alors, on nous confie que le grand-père maternel est tombé malade en été et il est décédé quelques mois plus tard. Ouais. Donc, la grand-mère maternelle est alors venue vivre dans la famille car elle ne pouvait plus donc se suffire à elle-même du fait de son âge. Donc là, la cellule familiale est un peu bouleversée autour de Paul. Voilà. Ce petit Paul qui nous fait l'école buissonnière. Mmh. Voilà. Alors, pendant l'été, donc, Paul va aider beaucoup sa mère, comme il l'a toujours fait en tant que fils aîné, et d'autant plus que le père est toujours, comme il est chauffeur routier, en déplacement.
Voilà, d'autant plus à l'époque, c'était des journées, enfin des longs déplacements.
Voilà. Donc, la mère est aussi fatiguée, vous nous dites, qu'elle s'occupe du bébé. Et elle doit faire aussi face au décès de son père, donc le grand-père maternel de Paul. Et de tout ce qui s'y rapporte. Donc une maman un peu surmenée, on peut dire.
Voilà, elle est prise un peu partout, on va dire, par l'enfant. Et puis elle doit s'occuper aussi de sa mère qui est au domicile.
Alors, Jean-Charles, comment se comporte Paul à la maison ?
Voilà, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que à la maison, Paul aidait sa mère comme à l'accoutumée, en fait.
C'est le fils modèle à la maison.
Rien n'a changé.
Voilà. À la maison, c'est le fils modèle. Voilà. Il aide.
Voilà, et c'est à l'école qu'il y a un souci et que voilà qui a donné le fait qu'il parte de l'école.
Donc l'école, il fait l'école missionnaire et c'est l'école qui demande une prise en charge.
Voilà, et donc dans cette situation, c'est Françoise Otto qui l'a reçu quelques fois, orienté par l'école au sein du centre psychiatrique, on va dire, de consultation pour famille. Et voilà. Et donc ils ont fait quelques consultations pour essayer de comprendre pourquoi Paul partait de l'école comme ça.
Alors, qu'est-ce que vous avez noté? Quels sont les faits importants qui ont été notés là?
Oui, parce que c'est un cas très très dense.
Oui, on le résume.
Il y a beaucoup d'éléments.
Là, hein.
Ici, j'ai choisi juste simplement une petite partie. On s'aperçoit que la maman de Paul était donc très occupée par le bébé et la grand-mère. Et Paul avait l'impression que ses parents le laissaient de côté, en fait.
Oui, il y avait un sentiment d'être délaissé, non?
Voilà. Et personne ne l'écoutait. Et donc, il n'avait personne à qui se confier. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est la question de l'angoisse de mort, c'est-à-dire le décès du grand-père qui a eu un effet sur Paul, mais en fait, il n'a pas d'espace pour l'exprimer. Donc, il l'a exprimé à sa manière, c'est-à-dire en fuyant l'école.
Bon, il fuit l'école, et alors dans ces centres, comment vous faites pour rééduquer l'enfant, si vous voulez, à la parole?
C'est important, c'est la question de l'espace de parole. Et avec les adultes, on peut parler, c'est-à-dire que la parole est ce qu'on appelle une médiation, c'est une chose qu'on peut travailler, la question des mots. Mais pour les enfants, ce qu'on travaille, c'est avec le jeu, donc le dessin, la pâte à modeler, avec les jouets aussi, on fait des mises en scène. Et en fait, Paul, il a 8 ans, qui est une phase cruciale pour les enfants, qui est la période où apparaissent les angoisses de mort. C'est à ce moment-là que les enfants demandent qu'on laisse la porte entrouverte ou avec une veilleuse. Donc c'est cette question de la mort qui apparaît à cet âge-là. Et donc Paul était en plein dans cette question, et son grand-père décédé a ravivé cette angoisse.
Voilà, un mot, Paul, avant notre pause musicale. Est-ce que Paul s'en est sorti?
Oui, je pense, parce que dans le... Voilà, il a évoqué qu'il a fait quelques séances et qu'après ça allait bien. Chez les enfants en général,
ça va très vite.
C'est assez rapide.
Bien, mais écoutez, pause musicale et nous retrouvons tout de suite après.
Un jour calme, probablement un dimanche, parler une dernière fois, probablement parler de toi, un jour sans drame. Probablement au bord de l'eau, dire un dernier mot. Probablement dire qu'il fait beau, mais chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence danse ma solitude. Ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. L'écume clame, voici le temps de baisser les âges. Je ne cherche pas le bonheur, je suis à la recherche du calme. L'écume clame, voici le temps de baisser les anges. Je ne cherche pas le bonheur, je suis à la recherche du calme. Mais chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Chut, regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence danse. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre. se taire, faire le vide au-dedans. Un jour, il faudra faire, il faudra faire comme le vent me jette. Regarde, tout est si parfait autour de toi, le silence. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre amie, que tant d'autres fuient. Ma solitude, toi mon incomprise, ma tendre promise. Ma solitude, ma chère et tendre amie, ma solitude, que tant d'autres fuient.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Oliva, nous sommes toujours avec Jean-Charles, notre psychologue préféré, qui nous parle aujourd'hui donc de l'absentéisme scolaire. Nous venons d'étudier le cas de Paul qui faisait l'école buissonnière, et aujourd'hui, et maintenant je veux dire, c'est Émile qui est un enfant de 11 ans et qui lui est en collège. Alors nous allons peut-être, Jean-Charles, présenter à nos auditeurs ce cas clinique à nouveau, et puis vous analyserez un petit peu tous les ressorts qu'il y a, ou toute la signification de cet absentéisme scolaire. Alors, Émile est un enfant de 11 ans, il vient d'entrer au collège en 6e.
Oui.
Donc là, nous quittons les classes primaires, comme
oui,
tout à l'heure.
Grand, oui.
Il a un grand frère de 15 ans qui est au lycée, et un jeune frère de 7 ans. Du côté des parents, il n'y a pas de souci entre eux. Le père est ouvrier et la maman est enseignante. Émile a toujours réussi à l'école. C'est un enfant assez brillant. Il a des facilités. Et voilà. Cela, il faut le signaler, à la différence de ses deux frères.
Voilà, ses deux frères, voilà, les parents doivent s'en occuper un peu plus à l'école pour les aider. Lui, il fait un peu tout seul quand même.
Voilà. Et là, cette année, en sixième, il commence à rencontrer des difficultés.
Oui. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, en fait, parce qu'il y a eu des changements dans sa vie, du fait des difficultés des autres frères, la maman qui l'a mené au foot le mercredi et qui pouvait même elle avait le temps pour assister aux entraînements ou aux matchs. Voilà, elle a dû s'occuper des deux autres parce que un a redoublé et l'autre était en train d'entrer au lycée. Elle n'avait plus trop le temps de s'occuper simplement de Émile. Et donc petit à petit, en fait, elle a arrêté de l'accompagner, d'assister aux entraînements, puis de l'accompagner.
Elle s'est investie dans votre âge, dans l'aîné et le plus jeune.
Voilà, c'est ça. Même le plus grand aussi, en fait. Lui s'est retrouvé un petit peu seul, alors que ce moment-là du mercredi et du foot, c'était le moment privilégié avec sa maman.
Avec sa maman, quoi, le voilà. Lien, voilà. Et le père, là-dedans, que fait-il ?
Le père, il est assez occupé, voilà, il est ouvrier, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup en semaine et il est assez fatigué le soir. Et du fait de l'agrandissement de la famille, voilà, il travaille à la maison le week-end, donc il fait des travaux. Donc il n'a pas trop le temps non plus de s'occuper d'aucun de ses enfants. En fait.
Donc on a l'impression que notre jeune Émile, ben, il grandit un petit peu seul. Donc que se passe-t-il ? C'est qu'au cours de l'année, vous nous dites qu'il commence à sécher les cours de 6e, et il part avec des amis, donc il fait l'école buissonnière, carrément.
Voilà. Il manque plusieurs cours, beaucoup de cours. Il part avec ses amis, ils vont se balader en campagne, en groupe.
Voilà, ils ne font pas de bêtises, mais ils font l'école buissonnière.
Voilà, ils se retrouvent ailleurs qu'à l'école.
Voilà, ils se retrouvent ailleurs à l'école. Donc, on peut comprendre les conséquences, c'est que les résultats scolaires chutent complètement et le lycée le menace d'exclusion.
Voilà.
Voilà. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ?
Voilà, la question pour Émile est différente de la première situation, c'est-à-dire que là, c'est un cas assez fréquent, enfin, pour les enfants qui sont entre deux, qui ont un plus petit et un plus grand. En plus, là, ce sont tous des garçons.
L'enfant intermédiaire, le deuxième sur une fratrie de trois.
Voilà, donc en fait, cet enfant qui est au milieu des deux autres, on va dire, depuis qu'il est tout petit, il s'identifie à l'aîné, donc il essaie de faire comme lui. Et en même temps, maintenant qu'il y en a un troisième qui est arrivé, ce troisième lui a pris sa place de petit dernier. Donc il est en rivalité. Donc en fait, il est pris entre le mouvement d'aspiration, d'identification et une rivalité. Donc c'est vrai que il se retrouve dans une place qui est pas facile et qui fait que bon voilà, là en plus Émile ayant toujours été bon à l'école, la maman a privilégié les deux autres parce qu'elle pensait que pour lui ça irait en fait. Sur le plan factuel, c'est assez juste, mais sur le plan psychologique, c'est un peu plus compliqué que ça.
Alors, il me vient une question. Est-ce que le fait, par exemple, de faire l'école buissonnière, sans faire de bêtises, hein, puisque vous nous dites qu'il court dans la campagne, il va se promener avec ses amis, voilà. Est-ce que ce n'est pas une sorte de régression, ça ? De régression, c'est-à-dire qu'il a envie de reprendre la place du petit, de se promener, enfin, d'être au milieu d'un groupe, d'être protégé ?
Oui, en fait, oui, effectivement, on peut le voir sur ce plan-là, c'est-à-dire d'être un élément parmi. Oui, c'était peut-être même le plus petit du groupe.
Oui. On ne sait pas. C'est peut-être ça, ce que j'ai pensé
c'est peut-être ça,
tout de
suite. Tout à fait. En fait, il y a aussi la question. C'est un préadolescent, donc il y a aussi la question de l'identité du groupe. Donc là, avec la problématique familiale qui était que c'est un peu, il se sent un petit peu délaissé parmi les deux avec par rapport aux deux autres frères, il retrouve dans ce groupe une identité, une importance, on va dire. Donc c'est une impression, hein, mais pour lui c'est véritable. C'est pour ça qu'il part avec ce groupe-là parce que
il a sa place.
Voilà, ils ne font qu'un. Enfin, on va dire ça comme ça.
Alors, est-ce que c'est donc d'où l'importance du groupe dans l'adolescence ? Là, vous soulignez quand même.
Oui, c'est très important. Enfin, c'est comme ça qu'on se
qu'on
les
se
enfants,
construit.
Voilà, les adolescents, ils observent les autres pour savoir où, à quelle place ils sont. Ils ont besoin d'un repère, en fait.
Oui.
Donc, qu'ils soient de leur âge.
Voilà. Donc, ce qui se passe à peu près... Bon, là, le cas est un peu plus disons, difficile parce qu'il va jusqu'à l'école buissonnière. Mais en fait, c'est un peu le cas d'un sentiment d'être délaissé que connaît tout adolescent, quand même.
Oui. Bah, c'est... Voilà, la période de l'adolescence, c'est une période... comment dire
de transition
existentielle,
voilà,
on recherche quelque chose, c'est quand même on arrête d'être un enfant, on n'est pas encore un adulte, donc c'est un peu comme Émile qui est l'enfant du milieu, c'est-à-dire que l'adolescent il est plus enfant, il n'est pas encore adulte, donc il est pris entre deux éléments aussi.
Merci beaucoup Jean-Charles, on va se retrouver après la pause musicale pour faire la synthèse de ces deux cas.
Comme si rien ne pouvait nous arriver, cette vie on s'en fout c'est du passé. On va pas se cacher ni se laisser tomber, avant d'avoir au moins essayé. Et si tu nous laissais ce qu'il faut, le temps, l'occasion de rattraper le courant. Car le pour toi.
Chers auditeurs, nous retrouvons donc Jean-Charles. Aujourd'hui, nous parlons donc avec lui de l'absentéisme scolaire. Nous venons d'évoquer deux cas concrets, deux cas cliniques en la personne donc d'Émile, je crois, et de, si je ne me souviens bien, Paul. Voilà le cas que nous avait présenté Françoise Dolto. Voilà. Alors, nous avons compris que l'absentéisme scolaire était une signification, c'est ça, il a une signification véritable, et ce n'est pas parce que l'enfant décide d'un coup comme ça de partir, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin et en rechercher les causes. Alors voilà. Là, je vous laisse un petit peu nous expliquer oui. Tout ça, Jean-Charles.
C'est vrai que pour les enfants, l'école, c'est important, c'est-à-dire c'est une bonne partie de leur vie, donc c'est l'endroit où il y a leurs amis, c'est un endroit important, dans le sens où il se passe quelque chose. Mmh. Donc si à un moment un enfant va bien à l'école et que assez soudainement ça change, c'est qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. On a l'impression que voilà, il se passe quelque chose comme des notes qui chutent, mais c'est peut-être pas simplement une question purement d'apprentissage, quoi. C'est peut-être un symptôme qui vient marquer un changement ailleurs dans la vie de l'enfant.
Alors, ce qui m'a marqué dans les deux cas, c'est que les deux enfants semblaient se sentir délaissés. Ils avaient le sentiment d'être mal aimés peut-être par les parents.
Oui, voilà, c'est le même symptôme. Ils se sentent un peu abandonnés, on va dire.
Donc, voilà, c'est l'abandon voilà. qui est très fort. Alors peut-être que ça dépend des sensibilités, mais souvent peut-être tout enfant a ce sentiment d'abandon quand un petit frère ou une petite sœur naît. Mm-hmm. Chaque enfant doit avoir ce sentiment d'abandon, mais il doit être. Est-ce qu'il est normal ce sentiment d'abandon?
Normal, je sais pas, parce que je peux pas oui. dire comment les gens ressentent. Enfin, oui. je comprends votre question. Oui. Hein. Sur la question, après, dans les deux situations, l'enfant n'a pas le même âge. Donc, pour le premier, il a 8 ans, c'est la question de l'angoisse de mort. Mmh. Donc, il s'est retrouvé, en fait, seul face à cette interrogation, cette angoisse. Et dans la seconde, c'est une question de rivalité par rapport à ses autres frères. Il a le sentiment d'être laissé par ses parents au profit des autres.
Oui, d'être délaissé. Voilà. Alors, le fait de parler avec vous, Jean-Charles, mmh. ça leur permet de s'exprimer ? Est-ce que l'enfant parle facilement de tout cela ?
Moi, je dirais oui, en fait. Parce que les enfants sont assez authentiques. Donc, c'est pour ça que le travail avance aussi assez rapidement. Enfin, moi, je trouve personnellement que ça va vite avec les enfants, c'est-à-dire que ils ont quand même, bon, c'est la jeunesse, ils ont des ressources et puis ils sont en train en perpétuel mouvement, ils sont toujours en train de changer donc et de se construire. Enfin, donc, quand il y a des petits accros, on va dire, comme là les situations qu'on évoque, en parlant et en mettant en place des processus, enfin des outils qu'on a nous chez les psychologues. Il n'y a pas que les psychologues, mais on utilise des outils pour favoriser la parole et pour faire que les choses passent en fait. Et ça passe avec les enfants, ça passe plus vite.
Oui, on a l'impression d'ailleurs, d'après ce que vous dites, que chez l'enfant, la thérapie est beaucoup plus rapide que chez l'adulte, parce que l'enfant a moins de résistance, non, je suppose. Se livre beaucoup plus spontanément.
Oui, il fait confiance, c'est important, parce que c'est important la confiance quand on va voir quelqu'un pour faire que ça avance. Mais après, bon, c'est vrai que les outils, moi en tant que psychologue, j'utilise beaucoup le dessin, donc la pâte à modeler, enfin toutes sortes de supports artistiques pour favoriser la parole, mais il y a d'autres professionnels qui utilisent d'autres médiations, hein, d'autres outils. Mais en tout cas, c'est vrai que à partir du moment où l'enfant va être d'accord pour travailler, ça va assez vite.
Voilà, je pense qu'aussi, peut-être qu'en fin d'émission, on pourrait dire à nos auditeurs que le conseil pour être parent, c'est, d'après ce que vous me dites, hein, c'est de savoir écouter son enfant. Ce n'est pas d'être sans cesse avec lui, mais c'est peut-être la qualité d'écoute, non ?
Oui, c'est pas facile quand on est parent, on est peut-être pris par des choses, mais c'est vrai que c'est important d'observer un peu les changements chez l'enfant, enfin s'il y a quelques symptômes, on va dire, et de ne pas hésiter à consulter. Enfin, parce que quand même, donc il y a des centres, des CMPEA ou des CMPP qui sont gratuits et qui permettent en quelques séances d'avancer. Et ça peut être assez profitable, parce que si on laisse les choses s'ancrer, hein, là pour les deux situations, si on fait rien, ils se font exclure de l'école et après qu'est-ce qui se passe,
quoi. Donc l'école buissonnière, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas dramatique dans la mesure où on agit immédiatement, parce que ça a une signification.
Voilà, il faut trouver le sens des choses et après... on trouve, si on a trouvé pourquoi on le fait, pourquoi l'enfant fait ça, ça permet de dire cette souffrance et après ça va mieux.
Merci Jean-Charles pour tous ces conseils et je vous laisse donc le mot de la fin.
Oui, je voulais informer nos auditeurs s'ils souhaitent nous adresser des questions, c'est-à-dire des thématiques ou des situations générales sur des cas concrets. Là, on a pris la situation de l'absentéisme scolaire. Si les auditeurs souhaitent nous adresser des questions, générales.
Mais qui n'hésitent pas, surtout.
Qui nous écrivent et on essaiera de traiter la situation.
Eh bien, merci encore et à très bientôt.
À bientôt.
De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail devousanou@radio-aviva.com.